Une nouvelle exposition sur le bijou à la Renaissance sublime l'hôtel d'Assesa.
D'or et d'éclat, le bijou à la Renaissance, c'est l'exposition proposée jusqu'au 27 juillet à la Fondation Bimbert, nichée dans ce magnifique hôtel d'Assesa à Toulouse. Sa conservatrice est l'invitée de Radio Présence. Bonjour Anna De Benedetti.
Bonjour.
La Fondation Bimbert fête ses 30 ans. Et cette exposition consacrée aux bijoux de la Renaissance, à la Renaissance, est un beau cadeau d'anniversaire. Que représente cet artifice entre le XIVe siècle en Italie jusqu'à l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle ?
Alors, l'exposition sur le bijou de la Renaissance traite surtout de la seconde moitié du XVIe siècle, là où vraiment il y a cet âge d'or de la parure, qui est un bijou. Enfin, le bijou n'est plus accessoire, il n'est pas accessoire d'ailleurs à l'époque, il est vraiment œuvre d'art à part entière. Et donc, comme les autres œuvres d'art, la peinture, la sculpture, l'architecture, il va puiser aux sources de ces arts, être en dialogue avec ces arts, et surtout, il va être utilisé de différentes façon. Donc nous avons décliné dans l'exposition différentes thématiques pour pouvoir lire à la symbolique de ce bijou.
Alors on va voir justement ces différentes thématiques, hein, puisque le bijou utilisé comme objet politique, comme objet de séduction, etc. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez, Anna De Benedetti, quelle est la particularité de cette exposition, puisque le sujet avait été déjà abordé il y a 40 ans par le Victorian Albert Museum à Londres. Vous en avez été la conservatrice, hein, en tout cas des peintures et des dessins. Qu'est-ce qu'elle apporte de différent, de nouveau, cette exposition à la Fondation Bimbert ?
Alors, le sujet en France n'a jamais été traité. Ouais. Il a été traité, certes, il y a plus de 45 ans maintenant, au Victorian Albert Museum, mon ancienne maison, avec quand même un focus assez anglais, puisque les collections royales comportent toujours beaucoup de bijoux, contrairement à la France. Et nous avons souhaité vraiment prendre l'aire géographique européenne, donc nous regarder toutes les cours européennes, d'autant plus qu'il est très difficile à l'époque de donner des centres de production. On ne peut pas vraiment identifier dans le bijou Renaissance s'il a été fait à Paris, en Allemagne, en Italie, en espagnol. Par contre, il y a toute une inspiration qui, elle, comme je vous l'ai dit, donc s'inspire des différents arts. Mmh. Et à ce moment-là, il est plus juste scientifiquement de faire le lien avec ces inspirations-là qu'avec les centres de production.
Mmh. Et comment vous avez fait pour monter cette exposition ? Parce que vous avez certainement des œuvres qui sont déjà présentes à la Fondation Bimbert, mais vous avez donc un partenariat avec le Musée national de la Renaissance, le Château des Coins, et puis vous avez, j'imagine, bénéficié de nombreux prêts ?
Oui, tout à fait. Donc nous avons prêté en interne 4 chefs-d'œuvre de la Fondation, qui viennent alimenter justement donc ces 4 tableaux, puisque toute l'ambition de cette exposition, c'est aussi pour le visiteur de pouvoir se projeter comment ces parures étaient portées, avec évidemment la mode de l'époque, mais aussi bien sûr l'objet lui-même en tant que savoir-faire technique, virtuosité de la maîtrise technique de ces grands orfèvres de la Renaissance et beauté esthétique également. Donc c'est la rencontre en fait d'une spécialiste de la Renaissance, peinture et dessin que je suis, avec Julie Roux, qui est conservatrice au Musée national de la Renaissance à Écouen, qui est spécialiste donc des bijoux anciens, des bijoux de la Renaissance. Et nous avons donc monté ensemble cette exposition. Alors, le fonds le plus important de bijoux Renaissance qui survit, et il y en a extrêmement peu en France, est conservé à Écouen. Et nous avons profité de la générosité de 30 prêteurs qui couvrent l'ensemble de l'Europe, bien sûr, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, bien sûr, et d'autres parties, et bien sûr aussi le territoire français, en plus du Musée national de la Renaissance.
Oui, c'est ça. Alors cette exposition, je rappelle son nom, D'or et d'éclat, le bijou à la Renaissance, elle se décline en 6 tableaux. Et j'emploie sciemment ce mot tableau parce que les œuvres sont vraiment magnifiques, par le raffinement de la scénographie. Et donc ça, c'est vraiment un beaucoup de chapeau pour la Fondation Bimbert et tout ce travail qui a été fait. La première section présente les matériaux et les techniques utilisées. Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, on y apprend qui étaient ces orfèvres, comment il travaillait. Il faisait partie d'une corporation, hein. Tout ça était vraiment très régulé à l'époque. Et on y apprend finalement que l'orfèvre pouvait dessiner lui-même le bijou, bien sûr, mais il avait aussi à sa disposition de nombreux modèles gravés, puisqu'on est à l'époque de la diffusion de l'estampe, hein, un moyen mécanique de reproduction qui n'existait pas auparavant. Et puis on apprend que finalement, cet orfèvre va regarder l'architecture, la sculpture, la peinture pour s'inspirer, pour créer des bijoux. On y apprend aussi quelque chose d'assez peut-être moderne, mais à l'époque, il faut essayer de se replacer dans le contexte. Ça, c'était tout à fait contemporain. Le bijou était aussi produit de façon sérielle. Donc, on voit dans l'exposition ces petits moules, ces petites empreintes à partir desquelles on pouvait produire en série des fermoirs pour monter des colliers, pour monter des bracelets. Donc, il y avait évidemment les grandes pièces uniques commandées. Et puis, il y avait aussi toute une production sérielle faite pour les diverses strates de la population. Parce que ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ça touche toutes les strates de la population.
Oui, bien sûr, oui, c'est pas réservé à une élite. Et pourtant, il y a une partie de l'exposition qui est consacrée aux bijoux de cour et elle part de ses sources d'inspiration, elle parcourt ses évolutions. Il y a des scènes de cour qui sont mises en exergue dans des tableaux, il y a des portraits aussi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Anna De Benedetti, de l'évolution du bijou de cours pendant cette période de la Renaissance?
Alors c'est très intéressant parce que justement on s'attendrait à une évolution formelle importante et en fait c'est le siècle où on a une espèce d'unification du style du bijou. C'est pour ça aussi qu'il est très difficile d'identifier d'où ils viennent, où ils ont été faits. Et on a donc évidemment les modes qui changent. Vous allez voir dans l'exposition de très grands tableaux d'apparat qui montrent ces dames de cour avec des somptueux vêtements verts, rouges ou noirs pour la mode espagnole, mais finalement des bijoux qui restent et demeurent assez constants dans leur esthétique. Par contre, il est là pour témoigner une projection du soi. Soit on est évidemment souverain, on porte les bijoux de cour pour montrer, pour témoigner de la bonne santé financière du royaume. Cette bonne santé financière du royaume va envoyer un signal fort comme quoi, s'il est attaqué, il a les moyens de se défendre, il peut lever des armées. Et il est aussi, évidemment, à la cour, une marque de faveur. Donc, on va distinguer certains fidèles, certains vassaux avec des bijoux. Et ça va, évidemment, créer aussi une parade. Et on voit très bien, évidemment, dans le grand tableau que nous a prêté Versailles, cette parade à la cour d'Henri III, où les membres de la cour montrent sur eux leurs bijoux, leurs richesses, et puis aussi les signes de distinction que leur ont accordé le monarque.
Donc là, il y a vraiment un rôle politique du bijou.
Complètement. Et d'ailleurs, dans ces bijoux, nous avons inclus les ordres de chevalerie, qui sont aussi très importants pour la cohésion du royaume, pour la défense du roi. Donc, les ordres de chevalerie qui portaient un costume et surtout une petite médaille, dont certaines ont survécu et qu'on peut voir dans l'exposition, et qui sont donc arborées par ces chevaliers.
Vous avez dit à Anna De Benedetti qu'il y avait quand même une influence de certains courants sur le bijou. Il y a évidemment l'Antiquité qui a pu inspirer les créateurs, et puis il y a l'art glyptique, hein, avec ces pierres gravées, les camées qu'on connaît. Est-ce qu'il y a eu d'autres influences?
Alors oui, bien sûr. Donc le camé, qui est cet art finalement antique qu'on redécouvre à la Renaissance et dont on va évidemment s'inspirer. Et la Renaissance, il faut bien comprendre que c'est le grand siècle de la redécouverte de l'antique. Oui. Mais non pas pour l'imiter, mais pour la recréer. Florence, c'est la nouvelle Rome. On essaye de créer sa propre antiquité, entre guillemets. Et donc, on ne va pas imiter, on va incorporer. Donc, le camé, qui souvent survit en tant que fragment, va être monté dans des orfèvreries, dans des montures d'orfèvres contemporaines, paré de colliers de perles. On va les porter en pendentif. On va aussi pouvoir les porter en ancienne à chapeau. Et cette antiquité va évidemment nourrir l'esthétique du bijou. Mais on va aussi découvrir avec la Domus Aurea de Néron, qui est découverte au début du XVIe siècle, les grotesques, donc qui vont également proposer un langage esthétique différent dont on va s'inspirer, les mauresques également, qui vont aussi, eux, coloniser en quelque sorte les objets décoratifs. On pourra voir dans l'exposition des petits coffrets qui sont finalement avec les mêmes motifs que les très belles boucles d'oreilles que René de France porte dans ce très beau tableau qui nous vient du Stadel Museum à Francfort.
Oui. Et le bijou, vous nous le disiez, Anada Beneditti, il touche toutes les couches de la population et il touche aussi différents événements de la vie, donc les baptêmes, les fiançailles, les mariages. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces bijoux qui marquent un événement finalement familial?
Oui, et bien sûr, alors évidemment, comme aujourd'hui encore, hein, l'anneau, qu'on appelait la bague, s'appelait plutôt l'anneau à l'époque, était un gage nuptial. Donc on a des portraits, alors on a beaucoup d'anneaux qui ont survécu, notamment ces très jolis anneaux qui, avec un motif antique qui montre deux mains qui s'entrelacent, c'est le motif de la bague en foie, qui donc montre, alors ça peut être l'amitié, mais c'est souvent aussi l'amour. Donc dans les portraits nuptiaux, souvent le personnage porte une petite bague où il la tient au du bout des doigts, comme dans un des tableaux prêtés par la fondation. C'est aussi courante à l'époque, un rôle de talisman. Il va protéger, on va porter un bijou parce qu'il a des vertus, alors grâce évidemment au langage des pierres, il a des vertus de protection contre certaines maladies, contre le mal. Et évidemment, par extension aussi, nous avons des bijoux très pratiques qui peuvent surprendre notre public contemporain. Puisqu'on n'hésitait pas à porter en pendentif des bijoux qui servent de cure-dents et de cure-oreilles. Donc un côté un peu pointu pour se curer les dents après le déjeuner, et puis un côté un petit peu plus plat, moins offensif, pour se curer les oreilles quand ça démangeait un petit peu. Donc tout ça était tout à fait, l'hygiène du corps rentrait tout à fait dans les mœurs, et montrait aussi, et c'était aussi une projection du soi, bien sûr, en tant que personne qui prend soin de soi, et donc qui éventuellement prend soin de ses affaires. Et donc tout ça est une question aussi de statut social et de projection pour l'autre.
Ouais, on pourrait un peu dire, dis-moi ce que tu portes, quel bijou tu portes et je te dirai qui tu es.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une gravure très intéressante dans notre exposition qui présente un personnage qui a vécu et qui avec un petit phylactère qui dit « Voici mon visage et voici mes bijoux ». Donc le bijou est vraiment très important dans ce que l'on veut dire de soi à l'autre.
Oui, c'est ça. Pour terminer, je voudrais savoir comment cette exposition dialogue avec les œuvres qui sont déjà présentes dans la Fondation Bimbert.
Alors la Fondation Bimbert a un fonds extrêmement riche, hein, il couvre 5 siècles de création artistique, depuis la Renaissance, depuis la fin du 15e siècle jusqu'à les dernières œuvres de Picasso dans les années 70. Et dans cette riche collection, on a un important fonds Renaissance qui se traduit alors bien sûr en termes de tableaux que nous avons prêtés en interne à l'exposition, mais qui se traduit aussi, alors non pas en bijoux mais en orfèvrerie, en objets décoratifs, qui se traduit dans la multitude de petits bronzes qui appartiennent à la fondation et qui sont typiques vraiment de cette période. Nous avons aussi de la majolique historiée, donc cette importance, ce goût de la Renaissance qui était très fort chez Monsieur Bimbert fait écho complètement à ce sujet que nous proposons et qui donc célèbre les 30 ans d'existence de la fondation.
Donc finalement tout est lié.
Tout est toujours lié.
Merci beaucoup, Anada Beneditti.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la conservatrice de la Fondation Bimbert à Toulouse et l'exposition d'or et d'éclat, le bijou à la Renaissance, est visible jusqu'au 27 juillet. Courez-y vite.